C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, les syndicats l'ont demandé, le Parti québécois l'a demandé aussi, en disant, plutôt que de se retrouver dans une situation plus que difficile, vendredi après l'imposition du décret, et donc le départ de milliers d'employés du réseau de la santé vers des suspensions sans solde, est-ce qu'on devrait reporter d'une semaine, deux semaines, trois semaines la décision? Nathalie?
Non. Pourquoi? Parce que le processus est beaucoup trop avancé. Deuxièmement, parce qu'une large majorité de Québécois qui sont en accord avec la décision du gouvernement d'imposer la vaccination obligatoire, un quelconque accommodement vaccinal serait perçu comme un recul de la part de la population. J'ai l'air très dur en le disant, mais la réalité politique, c'est celle-là. Ce matin, à 11h, le ministre de la Santé va déposer ce qu'on appelle un plan de contingence. Il a déjà affirmé qu'il allait avoir une réorganisation dans le réseau de la santé. Ça veut dire réorganisation est synonyme de compression. On peut pas offrir plus de services ou autant de services avec des, 15 000 personnes, dont des milliers de soignants en moins dans le réseau de la santé. Ce que je trouve dommage, c'est que ça fait 2-3 semaines qu'on parle de ça. Et là, le gouvernement, il est minuit moyenne, puis le gouvernement décide de déposer son plan de contingence, son plan de match pour minimiser l'impact sur l'accès aux services. Puis à peu près tout le monde dans le réseau, tu recevais ce matin un médecin qui représentait le secteur de l'Estrie qui dit il va y avoir des impacts sur la qualité des soins, sur l'accessibilité des soins également. Fait que honnêtement, politiquement, le gouvernement, c'est en prenant cette décision, qui, je le rappelle, est une décision qui reçoit une large adhésion de la population, mais c'est quand même placé dans une situation où aujourd'hui il est sur la défensive. Puis c'est pas facile. Et on va vivre avec les conséquences, malheureusement, de ça pendant plusieurs mois.
On n'est pas les seuls à avoir perdu des infirmières à cause du vaccin obligatoire. C'est le cas en Ontario, c'est le cas en France, c'est le cas dans plein d'États américains. Mais nous, ça tombe dans une période où il manque 4 000 infirmières. Et puis, c'est pour ça que l'impact est gigantesque. C'est pas comme si c'est 4% des infirmières du personnel infirmier qui refusent de se faire vacciner. Là, c'est pas 4%, normalement, un système est capable d'absorber une crise comme celle-là. Mais 4% dans un système où il manque déjà 4 000 infirmières, là, tu vas avoir un autre 10 000 membres de personnel infirmier qui travaillent auprès des gens. C'est 20 000 en tout qui sont pas vaccinés, mais c'est 10 000 qui travaillent auprès des gens. Tu mets ça à côté du 4 000 qui manque, ben là, bon, ça va faire quoi? Ça va faire qu'il y a des blocs opératoires qui vont fermer, il va y avoir des urgences qui vont fermer, il va y avoir du temps supplémentaire, avec temps supplémentaire, va générer du TSO, le TSO va générer des absences à long terme. Fait que tout le monde ensemble dans un grand tour de manège. Mais, tout à fait d'accord avec toi, Nathalie, l'État peut pas reculer. C'est drôle à dire parce que on n'est pas dans un moment de la pandémie qui est si dramatique que ça.
Mais voilà.
Un moment de la pandémie, tu sais, le nombre de cas est en train de diminuer. Il y en a qui voient la lumière au bout du tunnel, que plus de 80% de la population est vaccinée. Les affaires vont bien. Mais pourquoi la décision arrive à ce moment-ci? Puis pourquoi est-ce que l'État y tient absolument? C'est une épreuve d'autorité. À un moment donné, là, quand t'envoies des pompiers au feu, il n'y a pas un choix de menu. Pareil à la guerre. Il n'y a pas un choix de menu. À un moment donné, l'État doit faire preuve d'autorité. Gars, c'est ça qu'on fait.
Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Luc, si le gouvernement choisit de maintenir la ligne dure, il a aussi la responsabilité de minimiser les impacts sur bruits de services qui sont anticipés. Tu sais, tu peux pas effectivement prôner la ligne dure, puis en même temps, te fermer les yeux lorsque tu constates qu'effectivement, que le feu est pris dans la bâtisse.
Mais combien d'outils, là? Regarde, ils vont faire... Les outils, c'est quoi? Ils vont déplacer d'un hôpital à l'autre, ils vont fermer des opérations non urgentes, mais il y a déjà une liste d'opérations énormes qui se fait pas, des opérations qui ont été reportées de la pandémie. Ils vont augmenter le temps supplémentaire, ils vont rappeler des temps partiels, ils vont les mettre à temps plein, ils vont rappeler des personnes qui avaient pris leur retraite. Mais la liste est limitée. Et toutes ces solutions-là ont été essayées. Il va y avoir des impacts.
Il n'y a pas de miracle possible. Absolument, il va y avoir des impacts. Mais ce qui est intéressant, le contexte dans lequel on est assez inusité. Là. 5 cordes professionnelles. Moi, ça m'a frappé. Là. Pendant que Thérèse Attam, la médecin hygiéniste à Ottawa, nous annonce en fin de semaine qu'il est plutôt optimiste pour la suite des choses parce que la 4e vague semble s'estomper. Pendant ce temps au Québec, que se passe-t-il? Mais écoute, le plan de contingence pour éviter l'abris de service, c'est la panique dans le réseau, presque. 5 ordres professionnels qui sont alignés sur un même objectif, c'est-à-dire de suspendre les permis de leurs membres qui ne sont pas vaccinés. Infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, pharmaciens, collèges et médecins. Avez-vous vu ça dans l'histoire? Moi,
non,
je n'ai jamais vu ça.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Ben, en même temps, j'ai envie de te dire, Luc...
Pourquoi pas plus tôt?
Ben, mais en même temps, quand l'ordre est capable de prendre des décisions pour le bien-être collectif, pourquoi elle ne le fait pas dans d'autres circonstances? Je sais pas, moi, lorsqu'il s'agit
c'est,
de...
c'est sûr, mais là, on va applaudir ce coup-là.
Ben oui, effectivement, mais en tout cas, bref, il y a ça. Et l'autre chose, pendant ce temps-là, il y a Nancy Bédard, présidente de la FIC, qui est un joueur important dans le réseau de la santé, qui voit son leadership contesté. Et tu regardes ça, tu dis, t'es ministre de la Santé, là, on peut pas dire que ça va, comment dire, que ça va très,
très bien. Parce que le problème est que la FIC, le gros syndicat là, des infirmières, toi, t'es le ministre, là, tu dis, moi, je suis un deal avec elle. Quand elle me dit oui,
oui,
est-ce que c'est oui ou si ça va être non d'une demi-heure parce qu'elle va se faire virer de bord par son exécutif?
Un oui.
Oui.
Mais c'est ça. Ben à suivre cette histoire-là, ce chapitre-là est à suivre. Ça va être super intéressant. Le popcorn, s'il vous plaît. Mais as-tu entendu Régine Laurent sur les ordres professionnels? Je trouve ça brillant ce qu'elle a dit. Elle a dit. Un ordre professionnel peut exclure, par exemple, tu es une infirmière puis tu donnes pas un médecin, tu donnes pas le médicament qui existe. Qui pourrait soigner la personne, lui éviter des soins intensifs ou la mort. Si tu faisais ce geste-là, tu serais exclu de l'ordre. Ben, c'est exactement ça. Le vaccin, c'est le médicament qui permet d'empêcher les soins intensifs ou la mort, et encore plus de donner la maladie de la part d'un employé de la santé vers un patient. Alors, dans les statut de l'ordre, il y a des exemples comme ça où tu es obligé de soigner, tu es obligé de donner le médicament qui guérit. Il ne pouvait pas dire...
Un ordre professionnel, c'est censé protéger le public, c'est là pour ça. Puis l'autre chose que tu me fais penser, j'espère qu'il y a des syndicats au Québec qui n'auront pas à pousser, le cynisme jusqu'à défendre devant le tribunal leurs membres qui souhaitent contester la vaccination obligatoire parce qu'il y a déjà quelqu'un qui
l'a fait.
T'as
pas le choix comme syndicat, non?
Ben, moi, j'ai envie de te dire.
De défendre, en théorie, là, t'as un syndicat qui est supposé te représenter tes intérêts, là.
Moi, c'est aussi ce que j'ai entendu, mais quand t'es rendu là, c'est parce que t'es rendu une machine de distributrice d'avis négatifs, là. Je veux dire, à un moment donné, tu lis la situation, là.
Les syndicats marchent sur des œufs. Parce qu'ils savent très bien que sur le plan, ils n'ont pas l'approbation de la population. Sur le plan d'opinion publique, là. Écoute, ça passe pas, là. Un syndicat qui défend, une personne, un employé qui ne veut pas être vacciné, puis qui évoque comme raison...
J'ai pas le choix.
Moi, je veux choisir ce que je mets dans mon corps. OK, peut-être, buddy, mais c'est parce que là, imagine le bordel dans lequel on est. Là. Tout ça parce que on a, 15 000 personnes dans le réseau de la santé qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Mmh. Tout ça pour ça.
Avez-vous vu l'analyse qui a été faite des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se faire vacciner? Un article de La Presse ce matin qui réfère à une étude américaine. Très intéressant. Les gens qui... On a un biais d'analyse de toutes sortes de choses. Tu sais, par exemple, pour la gourmandise, est-ce que j'ai encore faim, est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que c'est bon pour mon corps de manger plus ou moins? La sécurité, est-ce que je dois barrer la porte avec 2 barreux, 3 barreux, 6 barreux? Est-ce que l'argent, est-ce que je vais en avoir assez d'argent, les radins, les pas radins, etc.? Mais pour la santé, il y a ce biais qui consiste à croire que les dangers sont tous égaux les uns aux autres. Ils sont pas capables d'évaluer un danger. Ils leur demandaient, le vaccin, d'après vous, ça vous protège combien de pourcents de personnes, c'est quoi le pourcentage de réduction des effets de la COVID sur la personne qui prend le vaccin? La plupart des gens qui refusent le vaccin disent 5%. La réalité, c'est 92%. Mais quand tu demandes à ces gens-là d'évaluer d'autres choses, combien qu'il y a de Smarties dans une boîte de Smarties, ils se trompent pas. Il y a à peu près le même pourcentage que le reste de la population. Donc, c'est un biais qui est lié à la maladie.
On s'arrête là-dessus au retour. Festival des promesses dans le monde municipal. Projet Montréal vient de découvrir qu'on peut faire des travaux 24 heures sur 24.
C'est pas vrai.
Pas vrai quoi?
Pas vrai, tu peux pas. Je vais dire ça tantôt.
OK, on regarde ça.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, les promesses hier revolaient à gauche et à droite, des travaux 24 sur 24 à Montréal, des espaces de stationnement dans les petits centres commerciaux taxés et un référendum sur le statut linguistique de la ville de Montréal. Est-ce que ça colle aux besoins du bon peuple?
Ben, vraisemblablement que non. Mais attends une minute. Avant, il faut quand même dire, c'est amusant cette campagne-là pour les annonces parce que Là, ça, c'était une affaire que Valérie Plante avait fait à la dernière campagne qui avait très, très bien fonctionné, une annonce par jour. T'sais, ça donne du dynamisme, ça donne l'impression que ça couvre tout le territoire. T'sais, un straight shooter, là, tout, tout, tout. Puis là, Coderre, lui, il voulait faire une campagne d'opposition. Et là, il a décidé d'embarquer. Et lui, si, il a décidé une annonce par jour quasiment, là, puis ça sort en ce moment. Là, il a vraiment changé. D'ailleurs, nouveau veston, nouvelle cravate, nouvelle stratégie de campagne.
Nouvelles lunettes aussi.
Nouvelles lunettes. Moi, je trouve que. Mais non, moi, je parle par rapport au début de la campagne. Quand c'est un nouvel homme, il est arrivé pas mal pareil, mais là, je trouve qu'il est en train de changer. Depuis une semaine, ça va bien. Une annonce par jour. Pareil pour Madame Plante, au lieu de défendre son bilan, elle aussi, elle reprend la recette de la dernière campagne, une annonce par jour. Fait que là-dedans, il y a du bon, il y a du pas bon. Puis j'ai aimé le fait que, par exemple, chez Coderre, recouvrement de l'autoroute Ville-Marie des Caries, bon, ça se fera jamais, mais c'est pas grave, c'est quand même une volonté d'embellissement. Puis 50 000 nouveaux logements,
pourquoi
ça se fera jamais.
Pourquoi tu dis que ça se fera jamais?
Trop cher.
Trop cher.
C'est des infrastructures. Les besoins d'infrastructures sont énormes dans tous les domaines. Tu surprendrais qu'on fasse ça pour des besoins d'embellissement, bien, si ce sont des cicatrices. Peut-être Ville-Marie, ça va se faire, parce que c'est une affaire comme 700 millions, c'est au centre-ville, mais tu peux valoriser les terrains autour, etc. Des Caries, j'ai plus de misère à croire que ça va se faire. Verdissement des rues, des arbres qui n'en ont pas, taxation des stationnements commerciaux. D'ailleurs, sur la taxation des stationnements, c'était-tu drôle hier? J'ouvre la presse, puis je vois Valérie Plante qui dit stationnement gratuit, Denis Coderre, stationnement taxé. Je dis, oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai quitté l'hôtel de ville. Bon, ben, là-dedans, tu sais, là-dedans, t'as du structurant. Le structurant du côté de Projet Montréal, c'est super. Donc, le centre-ville, avec des multiplications des places publiques, humains, des écoles, un quartier, pas juste un quartier du centre, mais aussi un quartier humain, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui habite au centre-ville. Du côté de Coderre, on va verdir les rues qui n'en ont pas. On va imposer, on va faire une taxe, la vieille promesse de Tremblay. On va imposer une taxe sur les grands stationnements commerciaux, parce que ça concurrence les stationnements sur rue. Alors, des bonnes choses. Par contre, il y a aussi du superficiel puis de l'inutile. Bon, excusez-moi, Projet Montréal, vous savez que je suis vos amis, je suis votre ami, mais là, cette affaire-là des travaux 24 heures, faites pas croire que ça va marcher, on l'a essayé, ça n'a pas marché. Bon, quand ça
mais
marche
pourquoi
pas...
Pourquoi ça se fait ailleurs puis pas ici?
Ben, je sais pas ailleurs comment que ça marche, mais je peux te dire que c'est moi qui ai signé le document pour tenter de le faire sur la rue Sainte-Catherine. À l'époque où j'étais au grand projet puis responsable du projet Sainte-Catherine, on a essayé d'obtenir du 24 sur 24. Le prix des travaux, bon, c'est ça la raison pourquoi ça se fait ailleurs, le prix. Le prix était...
Mais 7 sur 7, c'est-tu pensable?
Ben, peut-être, mais tu multiplies pas les employés nécessairement, là. C'est-à-dire que...
OK, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
Ben ouais, c'est ça. Tu vas faire du 7 sur 7 pendant un certain temps. Il y en a qui vont accepter de travailler 6 jours, par exemple, mettons. Mais au bout de 5-6 semaines, la fatigue va se faire sentir. Mais toujours est-il que, premièrement, le prix des appels d'offres était... inacceptable. C'est deux fois, trois fois le prix.
Mais normal, Luc, écoute, faire des travaux à 3 heures le matin, c'est sûr que tu peux pas payer au taux horaire.
Ben, c'est ça. Puis d'autre part, il y avait pas d'amélioration de la performance après 18 heures. 18 heures de travaux, t'avais deux équipes, avec du temps supplémentaire, mais à 24 heures, t'avais pas d'amélioration de la performance parce que...
Mais là, ça travaille pas 18 heures, là.
Mais non, je penserais pas. Pas en tout de même. Mais aussi, la ville a un choix à faire. Tu dis, je veux lancer tous ces travaux-là en même temps, ben, il y en a. Si je veux que ce chantier-là soit terminé avant puis que je mette du 18 heures sur ce chantier-là, ben, l'autre chantier, il se fera pas. C'est le même contracteur.
Alors, je comprends, mais moi, je me mets dans la peau d'un commerçant, là. Toi, là, ton chantier qui perturbe l'accès à ton commerce, le vendredi 3 heures s'arrête et reprend le lundi. Le vendredi soir, il y a personne. Le samedi, il y a personne. Dimanche, il y a personne.
Ouais.
Puis là, je te parle pas des délais, puis ça peut s'étirer. Pis...
Mais c'est correct. Moi, je te dis aux commerçants, correct. Signe ici que tu vas avoir une augmentation de taxes, puis je te le fais en 18 heures.
Non, mais il doit bien avoir d'autres solutions,
donné,
Luc.
Non. À un moment donné, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que si tu le fais... Regarde, si tu fais un projet de maison, regarde, prends ta maison. Je te fais ça pour comprendre la gestion de la ville. Prends ta maison. Demande au gars de venir travailler 24 heures par jour à ta maison. Elle va te coûter plus cher.
Pas 24 heures, mettons. Là.
OK, mais... 18 heures. Elle va te coûter plus cher.
Mais si tu le fais dans un délai plus court... Parce que, dans le fond, ce que l'administration va chercher à faire, c'est, des délais, des bénéfices sur l'efficience, sur l'efficacité puis sur le coût. Mais, parce qu'on sait qu'il va y avoir des grands travaux à Montréal jusqu'à quoi, 2028?
Ah, 2100.
2100. C'est là, je suis très optimiste ce matin, 2028. Ah, mais dans le fond, la question qui est posée, c'est comment on peut faire les choses différemment pour minimiser l'impact chez les commerçants. Sinon, on augmente la compensation. Sinon, on augmente la compensation qui est offerte aux commerçants, non?
Oui, d'accord. On va augmenter la compensation. On va faire 18 heures, mais on va augmenter les taxes. Il n'y en a pas de problème. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas,
pas
tout donner.
Il n'y a pas de miracle à faire.
À un moment donné, le budget, faut que tu le fermes. Bon, fait que là, ça ne marche pas.
Faut vivre avec les conséquences.
À part les travaux sur les promesses.
Honnêtement, moi, je regardais ça. Je suis sortie la plateforme de Mme Plante. C'est bien fait en passant. 24 pages. C'est beaucoup plus accessible que le contenu qui est sur le site d'Ensemble Montréal de Denis Coderre. Moi, je vous dis, je regarde ça. Puis pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Un exemple concret, les logements sociaux. Valérie Plante propose 60 000 logements sociaux sans nous donner d'échéancier, alors que l'équipe de Denis Coderre nous dit 50 000 logements sociaux sur 4 ans. 50 000 logements sociaux sur 4 ans?
Non, c'est pas des sociaux, lui.
Ben c'est non, c'est un mélange, c'est ouais, abordable, c'est famille, étudiants.
Oui, mais ça c'est du grand Coderre, Nathalie. Qu'est-ce qu'il fait?
4 ans, non, Luc, ça se peut pas en hein, 4 ans. Là,
ben mais non, mais regarde bien ça. Coderre, il va dire, moi je vais ouvrir des nouveaux territoires, je vous les donne à développer, comme par exemple l'espace là devant sur le bord du fleuve, là, comment ça s'appelle, la Cité du Havre. Là, je vais construire 20 000 logements là-dessus. Bonjour pour voir le fleuve après, mais en tout cas 20 000 logements. Là-dessus. Dans ces logements-là, tu vas me donner 15 % de, moi, je te donne le terrain, toi, tu vas me donner 15 % de logements abordables, social. Ben oui, mais
t'as vu?
C'est rien.
Oui, mais t'as vu la presse qui a sorti un article, les promoteurs privés ont préféré payer une compensation pour éviter d'inclure du logement social dans leur projet. Il y a plus de 20 millions là, qui a été versé sur X années. Là, il y a toujours pour les...
Les projets Montréal annoncent de la construction qui se fait pas non plus.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une autre réalité. Tu me souviens des engagements de 2017, mais on n'a pas livré là en termes de logements sociaux à Montréal.
Ben non, faut pas prendre du monde le monde pour des caves. Là. Écoute, qu'on soit 50 000.
50 000, 60 000. T'sais.
Mais 50 000 logements sur 4 ans, moi, j'y crois pas.
Moi, je dis 100 000, je vais me faire aider.
Mais 50 000 sur 4 ans, c'est pas possible. Là,
non, c'est pas possible, mais...
Mais la volonté, là.
Ben non, mais en fait, regarde, lui, il dit... Ce qu'il lui dit, c'est moi, je vais construire, je vais laisser le privé faire. Puis le privé, si je donne du terrain et des bonnes conditions de travail, il faut conduire plein de logements. Puis là-dedans, il va y avoir un peu de logement social. Plante a dit attention, on a essayé ça, ça ne marche pas. Le privé construit des logements trop chers. Il faut avoir des logements sociaux. Je promets des logements sociaux avec l'entente 300 par année. Mais 300 par année, il y a 40 000 personnes qui ont quitté Montréal l'an passé. 300 par année, c'est 1 %
Ouais, mais il y a quand même 17 000 personnes qui sont sur une liste d'attente et un peu plus à Montréal.
C'est ça, donc,
mais oui. Ça, c'est tant qu'à moi, là, c'est le sujet prioritaire pour Montréal. Il y a beaucoup trop de familles qui vivent dans des conditions de logement qui sont difficiles, insalubres. Ça crée énormément d'insécurité. Tu peux pas penser... projeter Montréal, la ville de demain, la ville du futur, qui va jouer un leadership sur la scène internationale, puis pendant ce temps-là, avoir autant de familles qui vivent autant d'insécurité.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais faire un deal avec toi.
Oui?
C'est pas blanc, bonnet blanc. C'est Plante un peu plus réaliste parce qu'elle sait que le privé peut pas le faire, à mon avis, plus réaliste, mais néanmoins, pas du tout à la hauteur de l'enjeu. À Berlin, ils viennent d'empêcher la financiarisation des logements. C'est-à-dire
que as-tu lu l'article sur l'Autriche, sur Vienne, ce matin, dans la presse, absolument?
Vienne, avec cette tradition de logement social depuis un siècle. Mm-hmm. Danemark, qui empêche une compagnie à numéro d'acheter un appartement puis de le revendre. Et tu sais, sortez du moule, soit logement social, soit privé. Là. Ça nous prend des nouvelles solutions. Il y en a plein à essayer, la solution des 60 000 logements sur 40 ans. C'est déjà ça, mais c'est pas assez.
Mais Denis Coderre propose de reconvertir. Il crois-tu, toi, la reconversion de certains immeubles désaffectés ou moins occupés au centre-ville?
Mais c'est parce que c'est des peanuts. Parce que oui, peut-être qu'il va y en avoir 3. Mais là, on parle de milliers de personnes qui n'ont pas d'endroit où habiter. Alors, ça prend des solutions, une adéquation entre les problèmes et les solutions. Je trouve que M. Coderre, il surfe un petit peu là-dessus.
Ferrandez à la mairie, M. Arcand, je l'ai dit, je le répète.
Mais tu vois, le problème du logement est grave. Regarde ici, là. C'est tout petit.
Hein? On est mal équipé.
Mal équipé, c'est minuscule, mais qu'est-ce que tu veux?
On fait la job pareil.
Exactement. Merci.
C'est 23.